Et nous allons faire la lecture de la parole de Dieu, et par respect pour cette parole, je vous invite donc à vous lever. Nous allons faire trois lectures, deux dans l'évangile de Jean et l'autre dans l'Apocalypse de Jean. Donc on va être avec Jean ce matin, tout le long de notre prédication. Donc Jean chapitre 6 d'abord, l'évangile de Jean chapitre 6 et le verset 47. Je vous rappelle que nous lisons la parole inspirée de Dieu. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle, ce sont donc les paroles de Jésus qui sont pour nous ce matin, celui qui croit à la vie éternelle. Un peu plus loin, au chapitre 14, nous lirons les versets 1 à 3. Chapitre 14, versets 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, je m'en vais et vous prépare une place. Je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et ensuite, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 22, donc tout à fait à la fin, le verset 1 à 5. Et c'est donc Jean dans une vision qui décrit cette vision. Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve se trouve l'arbre de vie qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, et ils n'auront besoin ni de lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, notre Créateur, notre Roi, comme nous venons de le chanter. Nous voulons te rendre grâce en ce jour parce que tu nous as rassemblés et en nous rassemblant, tu nous rappelles tes promesses, tu nous rappelles qu'en tant que pécheur, tu es là pour nous gracier, tu nous rappelles combien tu veux encore aujourd'hui nous parler par ta parole et nous te demandons maintenant de nous donner ton Esprit Saint. Ce même esprit qui a inspiré les auteurs de la Bible, et bien ce même esprit qui puisse maintenant nous parler, nous illuminer et nous conduire. Ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette petite histoire, mais peut-être que vous pourrez vous identifier avec cette histoire. Un jour, il y avait un monsieur qui se promenait au bord d'un, trop près du bord d'un précipice, et tout d'un coup, il a voulu regarder de trop près ce qui se passe, et plouf, il glisse dans le précipice. Alors, il part et il trouve quelque chose à s'accrocher. Il trouve une branche pendue et il s'accroche à la branche. Et là, il est pendu dans le vide. Alors, il crie au secours, est-ce qu'il y a quelqu'un là-haut? Ça dure un petit moment. Il y a quelqu'un là-haut. Et puis d'un seul coup, il y a une voix qui vient, qui dit, oui, je suis là. Ah, qui c'est? C'est Dieu. Ah, c'est formidable. Sors-moi de là. Oui, d'accord. Comment est-ce que je fais? Et Dieu lui dit, lâche la branche. Et là, il y a un grand silence. Et une longue minute. Et après, on entend, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre là-haut? Dimanche dernier, nous avons parlé de croire et de voir. Et vous vous souvenez que nous avons dit qu'il fallait d'abord croire pour voir. Que la plupart de nos contemporains disent « Montre-moi Dieu, montre-moi ceci et cela, je veux voir pour croire. » Et Dieu dit « Non, c'est tout le contraire. » Et la foi, vous vous souvenez, le texte que nous avions utilisé, c'est la ferme espérance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et je suis frappé de voir combien, après avoir été pasteur pendant de nombreuses années, que le problème qui revient constamment, pas seulement avec les gens de l'extérieur de l'Église, mais dans l'Église, c'est un problème de foi et de vraiment, est-ce que nous croyons vraiment ce que nous croyons prétendre croire? Nous l'avons même chanté tout à l'heure, nous croyons, nous croyons, nous croyons. Alors la question à savoir, c'est est-ce que vraiment on met derrière ce que nous prétendons croire une foi réelle? Une foi où on a une confiance totale en Dieu, comme cet homme. Si c'est Dieu réellement qui dit « lâche la branche », on doit la lâcher. Alors, la semaine dernière, donc, nous avons parlé de cela, et j'aimerais continuer un petit peu dans cette ligne, et parler justement de ce que nous croyons. Nous avons ce que nous appelons le symbole des apôtres, le credo, et régulièrement, dans l'Église, nous récitons cela, et malheureusement, c'est trop souvent une récitation. On est tellement habitué à ces dogmes qui sont vrais, qui ont été rapportés, rassemblés par les chrétiens des premiers siècles pour dire à l'Église comment il fallait penser notre foi. On sait très bien que l'autorité dans l'Écriture seule, mais que ces premiers dogmes étaient là pour protéger l'Église de l'hérésie. Alors, on grandit avec en disant « Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. » On parle de Jésus-Christ, on dit « Oui, je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu au séjour des morts. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel. » Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et de là il viendra pour juger les vivants et les morts. Est-ce que nous le croyons? Et ensuite, on dira « Je crois en l'Esprit Saint ». Et enfin, on dira « Je crois dans la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. » Et ce matin, j'aimerais m'arrêter justement sur cette fameuse résurrection de la chair. Est-ce que nous croyons vraiment ce que Dieu nous dit dans sa parole quand il parle du ciel? Jésus nous a dit, le texte que nous avons utilisé aujourd'hui, c'est Jean 6, 47, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. » Alors qu'est-ce que nous savons de cette vie éternelle? Qu'est-ce que nous savons du ciel? Alors nous en savons à la fois très peu, et en même temps, ce peu qui nous est révélé est extraordinaire. Et j'aimerais essayer de répondre à quatre questions ce matin, cet après-midi plutôt, des questions qui reviennent souvent de la part de jeunes chrétiens, comme de la part de chrétiens un peu plus âgés dans la foi. Est-ce que nous allons nous retrouver au ciel? Est-ce que nous allons nous reconnaître? Est-ce que nous aurons une demeure? Et aurons-nous des corps? Alors, certains chrétiens ont eu la chance d'entrevoir un peu du ciel avant de quitter ce monde. Et c'est le cas du très célèbre évangéliste du dernier siècle, le docteur Moody. Sur son lit d'hôpital, alors qu'il était sur le point de mourir, il a dit « La terre s'en va et le ciel s'ouvre devant moi. Si c'est ça la mort, c'est merveilleux. On m'appelle, je dois partir. » Alors son fils, qui était à son chevet, lui aurait alors dit « Papa, tu es en train d'halluciner, de rêver. » Et non, répondit M. Moody, « Je ne rêve pas. J'ai été devant les portes. J'ai même vu des visages d'enfants. » Puis après un moment de silence, juste avant d'expirer, ses dernières paroles furent « C'est un triomphe. C'est le jour de mon couronnement. C'est glorieux. » Quand nous lisons les textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, où les prophètes en particulier, ou beaucoup Jean dans ses écrits, nous parlent de cette vision de l'au-delà, des gens qui ont, à travers donc des visions, entrevu le ciel. Dieu leur a donné des visions qui leur permettaient de voir des petits morceaux, des petits bouts de la réalité. Mais il y avait un problème. Il a fallu décrire quelque chose qui n'avait pas d'équivalence sur la terre. Alors ils font de leur mieux pour comparer ce qu'ils voient à ce que nous connaissons. Par exemple, dans l'Apocalypse 4:6, lorsque Jean parle d'une rivière de cristal, pour décrire la splendeur et la limpidité d'une des rivières du ciel, on peut penser aux rayons du soleil qui reflètent sur la mer comme une mer de diamants. Pour Jean, l'éclat de cette rivière lui font penser à des cristaux, mais c'est tellement plus que cela. Ailleurs, il essaie de décrire des chorales d'anges dans Apocalypse 5, 11 à 12. Il parle de ces milliers d'anges. Nous étions, il y a quelques semaines, à l'auditorium de Lyon pour entendre le dernier grand concert de la saison avec une centaine de choristes, 120 musiciens, et c'était extraordinaire, mais imaginez, non pas 100, mais des milliers de choristes, non pas 120 musiciens, mais des milliers et des milliers de musiciens qui vont jouer de la harpe, toutes sortes d'instruments même qu'on ne peut pas imaginer. Et alors, Jean entend ces sons, il ne peut pas vraiment les décrire, mais il parle de ces sons célestes qu'il compare donc à des harpes, à des cloches, à des trompettes et à toutes sortes d'autres instruments. Comment décrire cela? Comment décrire ce qui se passe vraiment au ciel, la beauté du ciel? On ne peut pas vraiment faire justice à la réalité, comme d'ailleurs une brochure touristique. Vous voyez la photo d'une plage, et c'est très loin de la réalité de la plage. Il y a toute une dimension qui nous échappe dans cette photo. Il n'y a pas la profondeur, il n'y a pas l'étendue, il n'y a pas les odeurs de la mer, il n'y a pas le bruit des vagues. Les couleurs artificielles ne pourront jamais comparer à la réalité, non. La brochure ne fait pas justice à la réalité, mais, vous direz, c'est mieux que rien. Alors l'Écriture parle un peu du ciel, mais ça ne peut pas faire justice à la réalité, mais c'est mieux que rien. Alors que savons-nous du ciel? D'abord, une des quatre questions que j'ai posées tout à l'heure, que savons-nous du ciel quand un logement ou un lieu précis où nous allons nous trouver? Jésus dit à ses disciples, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus parle d'aller leur préparer une place. Vous savez que les disciples étaient nomades, constamment en train de voyager. Ils étaient étrangers, même dans leur patrie. Et Jésus leur promet une patrie dans laquelle ils ne seront plus des étrangers. Une maison, une demeure, on pourrait même traduire parfois par palais. Alors depuis que nous sommes mariés, Donna et moi, nous avons déménagé, et je recomptais cette semaine 11 fois, dont 6 fois à travers l'océan. Et vous rajoutez à ça des enfants et vous languissez pour une demeure fixe, un lieu permanent, un foyer, un chez-nous. Un chez-nous pour construire et tisser des relations intimes et durables. Un chez-nous pour tisser, établir des habitudes. Un lieu duquel nous pouvons partir temporairement mais dans lequel nous pouvons toujours revenir. Et bien selon l'Écriture, le ciel sera notre chez-nous pour toujours, notre chez-nous pour l'éternité, un lieu dans lequel on se sentira bien, un lieu qui nous sera familier, un endroit dans lequel, où que nous allions, on sera toujours le bienvenu. Il y a peu d'endroits comme cela ici-bas. Même nos meilleurs amis peuvent se lasser de nous. Au ciel, nous serons toujours les bienvenus et nous aurons un chez-nous. Jésus a dit, je vais vous préparer une demeure. Alors quand Jésus dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures, il fait allusion au grand palais de l'époque dans lequel la famille royale demeurait avec le roi, demeurait autour du roi. Or, l'Écriture dit que nous, les chrétiens, tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus-Christ seul pour être sauvés, nous sommes un sacerdoce royal, les prêtres du roi, selon 1 Pierre 2:9. Donc, si la maison de Dieu est à la dimension de Dieu lui-même, eh bien, nous pouvons être assurés qu'il y a de la place pour tous ceux et toutes celles qu'il invite dans cette maison ou autour de cette maison. D'ailleurs, il ne faut pas penser qu'on sera seulement 144 000 au ciel, heureusement d'ailleurs pour nous, nous serons des milliards, puisque nous sommes comparés aux grains de sable sur une plage qu'on ne peut compter. Le prophète Ésaïe, au chapitre 63, verset 15, parle du ciel comme étant la demeure sainte et glorieuse de Dieu. Et quelque part dans cet univers encore invisible à nos yeux, Jésus nous promet qu'il y a pour ses disciples une maison, un lieu spécialement réservé pour eux. Alors vous savez, ici-bas, la maison de rêve, celle des catalogues, n'est réservée qu'à une certaine élite, sans parler, si vous avez fait construire votre maison, vous comprendrez ce que je veux dire, les soucis de construction, de zoning, de voisinage, sans parler des dettes accumulées. Imaginez faire construire la maison de vos rêves sur le site de vos rêves, et ceci sans avoir à penser au coût, à la durée des travaux, à la malconstruction, aux intempéries, aux inondations, aux tornades, et j'en passe. Devant l'incroyable diversité et la beauté de la création, ce même Dieu, ce créateur, l'artiste par excellence, capable de créer à partir du rien un univers avec une diversité des couleurs, des sons et des goûts. C'est ce même Dieu, ce même artiste qui nous promet une demeure, un lieu qui nous emmènera au-delà de notre imagination. Il parle de perfection. Une demeure sans serrure ni fermeture, car il n'y a aucune personne vicieuse dans ce nouveau monde. Une maison avec de l'eau en abondance, de la lumière à volonté. Une maison dans laquelle il ne manquera rien. Mais avec cette maison, Jésus promet quelque chose d'autre encore plus précieux. Il leur promet d'être présent au milieu d'eux. Il dit au verset 3, « Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Frères et sœurs, plus que toute autre chose, ce qui a réconforté les disciples à qui Jésus annonce son départ, était de savoir que Jésus, leur ami, serait toujours avec eux. Un peu comme ce vieil homme mourant, à qui quelqu'un demanda un jour ce qu'il pensait de la mort, et il répondit, « Peu importe que je vive ou que je meure. Si je meurs, je serai avec Jésus. Si je vis, Jésus sera avec moi. » Alors comme nous le chantons, et comme nous allons d'ailleurs le chanter tout à l'heure, à chaque jour, à chaque heure, « Oh, j'ai besoin de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi cette présence de Jésus. » Quand Jésus leur annonce son départ et qu'ils commencent à s'inquiéter, à avoir de l'anxiété, Jésus leur dit « Rassurez-vous, je vous envoie le Consolateur, vous ne serez jamais seul à partir de maintenant, vous ne serez jamais seul, et quand vous quittez ce monde, je vous promets que vous serez avec moi. » Est-ce que nous le croyons vraiment? Et Jésus leur laisse donc cette promesse, celle de l'envoi du Saint-Esprit, le Paraclet, mais aussi qu'il viendra, les prendra avec lui et qu'ils seront toujours avec lui. Et cette double promesse est aussi pour nous cet après-midi. Encore une fois, si nous avons placé toute notre confiance en Jésus-Christ, pas dans une religion, pas dans les traditions, mais seulement dans la personne et l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Vous savez, j'ai dit souvent à des gens qui me disent on ne s'intéresse pas vraiment à la religion ni à Jésus-Christ. Et je leur dis, mais vous seriez très malheureux au ciel. En réalité, vous ne voulez vraiment pas y aller. Parce que si vous ne voulez pas de la présence de Jésus-Christ maintenant dans vos vies, eh bien le ciel sera une place de misère pour vous parce qu'il sera là en permanence. Seuls les chrétiens qui ont compris qui était Jésus-Christ, qui ont mis toute leur confiance en lui, apprécient sa présence constante dans nos vies. Et si nous apprécions pas ses paroles, si nous n'avons pas le désir de lui parler, d'être en communion, communication avec lui, eh bien, le ciel ne sera pas un lieu agréable, car la présence de Jésus au ciel sera prédominante. Ce sera une fête permanente autour du Christ. C'est la présence du Christ qui fait toute la différence dans notre vie, qui donne le sens à notre vie, le sens à notre mort. C'est sa beauté qui fera que le ciel sera un lieu magnifique. C'est sa présence qui rendra le ciel si glorieux. Vous savez, autrefois, les rois avaient plusieurs demeures, des châteaux et des palais, et le drapeau du pays sur lequel régnait le roi n'était élevé que lorsque le roi était présent dans la résidence en question. C'est comme ça qu'on le savait. Le drapeau est là, le roi est dans son château. Eh bien, lorsque Jésus, notre roi, réside dans nos vies, dans nos cœurs, eh bien, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Il y a une joie, il y a une paix, il y a quelque chose d'absolument unique. Le drapeau de Jésus n'est jamais en berne. Et au ciel, le drapeau flottera en permanence, car Jésus-Christ, notre roi, sera là en permanence. Alors de savoir que Jésus nous prépare une demeure, que ce sera magnifique, et que Jésus sera au milieu de nous en permanence, c'est formidable. Mais une autre question, va-t-on pouvoir se retrouver et se reconnaître? Dans la Genèse, au chapitre 25, verset 8, nous lisons, je cite, « Abraham avait 175 ans quand il mourut. C'est donc après une longue et heureuse vieillesse qu'il rejoignit ses ancêtres dans la mort. » La même chose est dite concernant Ismaël, Jacob, Aaron, Moïse, etc. Alors certains ont suggéré que rejoindre ses ancêtres signifiait être enterré au même endroit, dans le même tombeau. Sauf que les ancêtres d'Abraham ont été enterrés à Ur en Chaldée, son père à Haran, alors qu'Abraham fut enterré à Metchpela dans le pays qui deviendra d'ailleurs Israël. Donc ce texte ne peut pas signifier être réuni dans le même caveau familial. D'ailleurs, avez-vous remarqué que le texte dit d'abord qu'Abraham est décédé, réuni avec ses ancêtres, puis qu'il fut enterré. Ainsi, être réuni à ses ancêtres se réfère à la mort elle-même. À l'instant de notre mort, nous entrons non seulement dans la présence glorieuse du Seigneur, mais par la même occasion, nous entrons en contact avec nos ancêtres morts en Jésus-Christ. Un autre cas qui démontre que nous allons retrouver nos bien-aimés qui sont morts dans le Seigneur, et en l'occurrence, les enfants de l'Alliance morts en jeune âge, se trouvent dans 2 Samuel, chapitre 12, les versets 22 à 23. Et vous connaissez bien cette histoire. Le roi David et Bathsheba eurent un fils qui tomba très malade et qui mourut. Et alors que son fils est toujours en vie, bien qu'entre la vie et la mort, David est en train de prier et de jeûner, criant à Dieu, suppliant Dieu d'épargner son fils. Il était tellement attaché à son fils que les serviteurs du roi craignaient de lui annoncer la nouvelle de la mort de son fils. Mais dès que David apprend la nouvelle, il a surpris tout le monde. Il s'est levé, il s'est habillé, il a repris ses activités de roi. Et alors, dans l'étonnement, ses serviteurs lui ont demandé « Mais pourquoi ?» Et il répondit, et voici, je cite l'Écriture, « Lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je priais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas. Maintenant qu'il est mort, pourquoi est-ce que je jeûnerai? Puis-je le faire revenir? Non, j'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. J'irai vers lui, mais il ne reviendra pas vers moi. » Le roi David est réconforté par l'assurance que s'il ne pouvait pas faire revenir son fils à la vie, il le reverrait à nouveau quand il dit « Moi, j'irai vers lui. » Et le roi David n'avait pas seulement l'assurance de retrouver son fils, mais aussi de le reconnaître. Vous savez, dans le Nouveau Testament, plusieurs textes nous montrent que nous serons en mesure de nous retrouver et de nous reconnaître. Vous avez entendu l'histoire de la transfiguration. Lorsque Jésus, accompagné de Pierre, Jacques et Jean, se retrouve sur une montagne et tout à coup, Jésus vient transfiguré. Et voici que Moïse et Élie apparaissent à ses côtés et Jésus s'entretient avec eux. Alors c'est Luc qui décrit cette scène. Il les appelle d'abord des hommes. Ainsi, ce n'étaient pas des esprits sans corps. Et Pierre a reconnu Moïse et Élie. Et il dit, dans Luc 9, 33, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons du camping, dressons une tente, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Nous relevons deux choses ici. Moïse et Élie, morts depuis bien longtemps, ont retenu toute leur identité. Et à ma connaissance, les appareils photos n'existaient pas à l'époque. Comment Pierre et les autres disciples ont-ils su que c'était Moïse, que c'était Élie, deux hommes qui ont vécu des centaines d'années plus tôt qu'eux? Comment les ont-ils reconnus? Je ne sais pas, mais je constate qu'ils sont en mesure de les reconnaître. Vous savez, dans certaines grandes églises aux États-Unis, le dimanche matin, les membres portent un badge avec leur nom. Dans une église de plus de 6000 membres qui assistent au culte en même temps, même avec une bonne mémoire, vous ne vous souviendrez certainement pas de tous les prénoms. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, au ciel, nous n'aurons pas besoin de badge. Nous serons en mesure, non seulement de nous reconnaître, mais aussi de reconnaître les personnes que nous n'avons jamais rencontrées. Nous serons en mesure de reconnaître le roi David, d'aller passer la soirée avec Moïse, et le lendemain avec Aaron et Jacob. Toutes les personnes mentionnées dans l'Écriture, on pourra les rencontrer et nous aurons l'éternité pour bavarder. Nous pourrons nous reconnaître, bien que nous aurons des corps nouveaux. 1 Corinthiens 15, 42, il parle de ce corps, notre corps, qui est semé corruptible, qui ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. De même que nous avons porté l'image du terrestre, dit-il, nous porterons aussi l'image du céleste. Dans 1 Jean 3, 2, quand il dit que Jean dit que nous serons semblables à Jésus-Christ, il dit parce que nous le verrons tel qu'il est au moment où il en parle. Nous serons semblables à Jésus-Christ. Après sa mort et sa résurrection, Jésus était parfaitement reconnaissable. Pourtant, il avait subi une transformation pour pouvoir passer à travers des portes et des murs ou parcourir en quelques secondes des distances incroyables. Dans Luc 24, 37, alors que Jésus apparaît soudainement au milieu de ses disciples, nous lisons, saisi de frayeur et d'épouvante, et il y avait de croix, il croyait voir un esprit. Mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains, voyez mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et au verset 41, il leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger? Nos corps seront transformés, mais nous nous reconnaîtrons. Nos corps seront rendus incorruptibles, ils seront parfaits. Ils ne seront plus soumis à la vieillesse, à la maladie, à la mort, aux accidents, aux douleurs, aux peines de cette vie. Les cellules de nos corps seront différentes. Et plus qu'une ressemblance corporelle avec Jésus, nous lui ressemblerons également en sainteté. Nous aimerons parfaitement. Ici-bas, nous péchons constamment, et c'est pourquoi nous avons constamment besoin de revenir au pied du trône de la grâce pour recevoir la grâce de Dieu, parce que nous sommes pécheurs. Au ciel, il n'y aura ni péché, ni même possibilité de péché. Maintenant, Par la grâce de Dieu, nous pouvons expérimenter l'amour de Dieu, l'amour fraternel, mais c'est un amour tellement imparfait, qui vacille, qui change. Au ciel, nous serons rendus capables d'aimer comme Jésus lui-même. Alors vous voyez, la Bible ne dit pas tout sur le ciel, mais dans sa sagesse, Dieu a choisi de nous donner autant de détails que nous étions en mesure de recevoir et d'informations sur le ciel qui nous étaient absolument essentielles. Mais nous a donné de la connaissance pour pouvoir simplement envisager et seulement goûter un tout petit peu de ce qui nous attend. Si nous avons Jésus dans notre cœur aujourd'hui, nous avons déjà un avant-goût du ciel. Je me souviens qu'avant d'épouser mon épouse, Donna, je savais que notre mariage serait magnifique. Et nos fiançailles, bien que séparées par un océan, furent un temps très riche de correspondance, de partage, de joie, d'anticipation. Mais c'est la même chose avec notre Seigneur. Nous sommes dans une période de fiançailles et nous pouvons connaître Jésus dans une certaine intimité, mais pour maintenant, c'est suffisant. Mais le jour vient où nous serons réunis avec lui. Ce sera une connaissance parfaite, une joie parfaite, ce sera le ciel. Puissions-nous tous dire cet après-midi, je crois dans la résurrection de la chair et la vie éternelle. Puissions-nous le dire, pas seulement avec notre tête, mais aussi avec notre cœur. Nous croyons vraiment ce que l'Écriture déclare. Et si vous n'avez pas cette assurance de la vie éternelle, si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu par Jésus-Christ, eh bien vous pouvez le faire par une simple prière. Venez me voir après le culte, on peut en parler, parce que vous pouvez ici-bas avoir cette assurance. Jésus a dit, je vous le dis en vérité, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est dans le présent et c'est une promesse garantie par Jésus lui-même. Je vous invite à la prière. Dieu notre Seigneur, donne-nous de non seulement croire en toi le jour où tu nous as appelés à toi, que tu as ouvert nos yeux pour nous permettre de voir ensuite. Et donne-nous, Seigneur, durant toute notre vie chrétienne, de continuer à croire pour continuer à voir. Seigneur, ta parole est vraie, qu'elle puisse continuer à nous transformer et nous sanctifier. Au nom de Jésus, le roi, qui revient bientôt, celui qui nous a préparé une place, celui dont toutes les paroles sont vraies, celui dont toutes les promesses s'accompliront avec certitude. En son nom précieux, nous prions. Amen. Eh bien, je vous invite à vous lever. Nous allons justement chanter ce cantique 68, « J'ai soif de ta présence ».